liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 22 année 2015. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire, soyons efficaces.
Fabrication matérielle libre, le domaine public au Panthéon, le traité transatlantique, les éditeurs de logiciels privateurs américains, AdBlock Plus en Allemagne, Mandriva, une mauvaise nouvelle, les logiciels malveillants, et pour finir, un article sur le fisc et les logiciels qu'il produit.
Slate.fr, fabriquer des produits en open source, une révolution prometteuse, un article de Chisato Goya.
On en parle et on en reparle parce que ça fait plusieurs semaines d'affilée.
Ouais, le thème est à la mode.
Le thème est vraiment à la mode et il y a encore d'autres articles ailleurs, même dans la revue de presse d'ailleurs, qui sont mis en article secondaire. Donc il s'agit de tout ce qui concerne l'économie collaborative, les imprimantes 3D.
Mais très orienté libre.
C'est quelque chose qui est pas mal d'ailleurs. Donc alors nous, forcément, les articles en montent, ils vont avoir un lien avec le libre à un moment donné, ou l'open source, hein, comme c'est référencé. Mais aussi avec tout ce qui est la démocratisation, l'ouverture au public, la prise en main et le fait que voilà, c'est un progrès potentiel énorme qui nous arrive dessus, mais que c'est grâce au logiciel libre et à la philosophie du logiciel libre, la population peut le prendre en main.
Et donc ça reparle de trucs qu'on a évoqués ces derniers temps, notamment des mouvements qui consistent à faire des maisons avec les plans qui sont sous licence libre.
Donc architecture et tout ce qui est open source pour faire de l'architecture partagée. Hein.
Voilà, et ça cite ce qui se passe dans les Fab Lab, les rencontres, les Open Bidouille Camp, tous ces événements qui visent à ce que les gens partagent, apprennent à faire avec cette idée d'utiliser des outils numériques, que ce soit des machines à commande numérique ou des choses comme ça, et en mettant le résultat sous licence libre. Et ça cite à la fin un truc que tu as déjà remonté, qui est POC 21, ce qui est en train de se faire cet été.
Et on en reparle, hein, voilà. Parce qu'ils ont une super campagne de com, je pense.
Je pense que cet article en fait partie, c'est-à-dire qu'en gros, ils poussent le sujet, donc ils sont cités là, dans toute une série d'articles, de telle sorte que le sujet soit bien présent à l'esprit quand ce travail donc de POC 21, ce qui se déroule dans les Yvelines actuellement, arrivera à son terme.
Petit détail, je ne savais pas, faudrait vérifier, Toyota aurait placé tous les brevets de ses voitures à hydrogène en libre. Donc on le savait pour Tesla et les voitures électriques qu'il était en train de faire.
Oui, alors pour Tesla, on sait qu'il a dit qu'il ne ferait pas de procès aux gens qui les utiliseraient, enfin qui utiliseraient des technologies brevetées de bonne foi. Donc ça reste quand même soumis à sa bonne volonté. C'est simplement un acte de bonne foi. Donc on n'est pas réellement dans le libre.
Donc pour le coup, Toyota aurait peut-être fait l'étape la même supérieure, chose. Oui. Bah, d'après l'article. Hein, mais à vérifier, il y aura peut-être d'autres articles les semaines qui viennent, j'espère, sur le sujet.
Numérama, Jean Zay, un défenseur du domaine public au Panthéon, un article de Guillaume Champeau.
Alors vraiment, ça me fait plaisir de voir l'actualité déferler pour parler de sujets proches du libre. Donc là, le domaine public.
C'est assez rigolo que ce sujet arrive par Guillaume Champeau et sur cette entrée au Panthéon de Jean Zay, puisqu'on est en pleine période de discussion sur la réforme du droit d'auteur au niveau européen.
Et c'est ça qui est amusant en plus. Hein. Voilà. Il y a vraiment une actualité à deux crans. Alors donc, pour le coup, il y a des articles secondaires qui parlent de cela et du fait que Fleur Pellerin est en train d'enterrer des choses qui pourtant avaient été mises sur la table. Des évolutions sur le domaine public, des évolutions positives, une définition positive du domaine public. Donc des choses vraiment intéressantes. Mais non, il faut croire que les ayants droit sont trop forts. Et donc Jean Zay défendait le domaine public, il semblerait, mais de manière...
Juste avant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, de et manière donc, très forte. Hein,
voilà, avec cette idée que je trouve très forte, qui est de dire qu'il faut en gros casser la gueule à l'idée qu'il y a une propriété littéraire et artistique, et que ce n'est pas une propriété, mais qu'on rémunère le travail d'un artiste, et qu'il y a cet équilibre à avoir entre le public, la culture, et cette question de la rémunération de l'auteur. Et effectivement, hein, ce que dit l'auteur de l'article, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment complètement dans cette idée de la propriété.
Et puis à outrance.
À outrance, avec 70 ans après la mort de l'auteur.
Mais c'est un truc de folie, ça veut dire qu'il y a 3 générations et demie après la mort de l'auteur. Donc déjà, l'auteur, c'est plus une retraite qu'il a, c'est vraiment le fruit de son travail qui continue à travailler pour lui, et même après sa mort, 70 ans après la mort, c'est un truc de folie. Et donc lui, Jean Zay, il avait des idées là-dessus. Alors, je crois pas qu'il était à 70 ans à son époque, mais pour que le domaine public...
Il proposait 10 ans après la mort de l'auteur.
Pour que ça puisse en profiter un peu aux enfants, mais bon, déjà, jusqu'à la mort de l'auteur, potentiellement, ça peut être long. Donc on en reparlera aussi parce que par ailleurs il y a le Parlement européen qui est en train d'aborder ces sujets ou des sujets connexes à tout cela en droit d'auteur. Donc il y a des choses qui bougent, c'est juste que les ministres français ils sont bloquants et ils veulent vraiment pas que ça évolue, et puis tous les ayants droit français.
Lemonde.fr, traité transatlantique, feu vert partiel du Parlement européen, un article de Cécile Ducourtieu.
Donc, contrairement au nom, ce n'est pas tout le, au titre, ce n'est pas tout le Parlement qui vient de valider le traité transatlantique, juste une commission qu'on n'apprécie pas trop pour le coup, parce que là, ils sont en train de se mettre d'accord sur des choses qui nous déplaisent énormément.
Le traité transatlantique, c'est TTIP ou TAFTA, c'est la même chose. Et donc là, en gros, ils ont quand même arrondi les angles, on en parlait la semaine dernière ou il y a deux semaines. En gros, ils ont dit oui, vous n'êtes pas content, on va améliorer ça. C'est sur ce tribunal arbitral, hein, cette espèce de machin privé qui voudrait faire croire que c'est un vrai tribunal et qui permettrait donc aux entreprises d'attaquer les États. Leur avis n'est pas engageant, mais
heureusement,
ça a quand même du poids. Et il va dans le mauvais sens et il s'est absolument pas engagé contre ce principe de tribunal arbitral qui est vraiment problématique.
Il y a plein de choses qu'on n'aime pas, mais je pense qu'on en reparlera les semaines qui viennent, parce que c'est franchement des sujets absolument atroces.
Les Échos, informatique, les éditeurs américains mis à l'écart par l'administration, un article de Sandrine Cassini.
Donc, on parlait justement des entreprises et des États. Là, ça me semble être un exemple typique de ce qui pourrait déclencher ces arbitrages. Les éditeurs sont écartés, ils sont écartés parce qu'on préfère les logiciels libres. Mmh. Bonne alternative, on aime, ça nous plaît, ils veulent utiliser des messageries, ils ont un référentiel général d'interopérabilité, mais les éditeurs, surtout américains et Microsoft, sont écartés.
Donc c'est le RGI, c'est référentiel général d'interopérabilité.
Oui, c'est barbare. Hein, oui.
Voilà, le mot interopérabilité est assez précis, mais oui, il est beaucoup trop de syllabes. Donc ce machin est en gros le document de référence édité par l'équivalent de la direction des services informatiques de l'État. C'est là-dedans que, en gros, cette institution dit voilà les logiciels que vous pouvez utiliser pour pouvoir échanger vos données, vos fichiers, travailler ensemble. Dans l'ancienne version, ils avaient mis OpenXML, qui est un format que Microsoft avait fait normer à la hache, quoi. Enfin, un coup de marteau, c'était une horreur.
Ils avaient vraiment tout triché partout, même le nom Open inclus dans une norme de Microsoft, ça fait marrer tout le monde, et même eux ne l'implémentent pas correctement, voilà. Encore aujourd'hui, il me semble.
Effectivement, c'est pas du tout appliqué, ou en tout cas c'est partiellement appliqué, donc en fait inutilisable, ça ne permet pas de lire ou de créer des fichiers au format de Microsoft.
C'était juste pour passer sous le radar, dire regardez, on a un standard.
Voilà. Et puis en fait l'idée c'est que dans le RGI, en fait les administrations avaient le choix, ils pouvaient faire le choix d'OpenXML, ce qui était au final les formats de Microsoft, sachant que c'était pas le vrai OpenXML, etc. Donc c'était un moyen de complètement neutraliser ça. Donc dans le nouveau RGI, ils ont dégagé OpenXML, et c'est ODF, l'Open Document Format, qui a pris la place.
Donc LibreOffice, hein, qu'on aime bien, comme son nom l'indique, c'est du logiciel libre.
Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a évidemment des industriels qui couinent en disant « mais si on commence à interdire des pans entiers ou des entreprises qui se sentent un petit peu concernées, notamment des éditeurs qui ne sont pas cités là, mais éditeurs de logiciels propriétaires européens, et ils n'aiment pas trop ça, mais ça tombe sous le sens, si on veut faire de l'interopérabilité, il faut des formes
ouvertes. » Et des économies, et être indépendant de certains fournisseurs, ça tombe sous le sens.
Puis on parle bien d'interopérabilité, je ne doute pas que le PDF, qui est un format propriétaire mais ouvert, figure dans le RGI, donc c'est pas obligé de faire du libre, il faut avoir simplement quelque chose d'ouvert que n'importe qui puisse utiliser. Lemonde.fr, Adblock Plus remporte une victoire judiciaire en Allemagne, un article de Cécile Boutelet.
Alors, Adblock Plus, si vous ne l'avez pas sur votre navigateur, sur vos navigateurs, bien je vous recommande de l'installer ou d'installer des équivalents.
Ouais, Adblock Edge, moi c'est celui que j'utilise.
Alors, il y a Microblock aussi qui vient de sortir, il y a Microblock Origin qui sont toujours sur les mêmes modèles. Hein, donc, il y a un vrai marché en fait en termes d'usage. C'est pas un marché où on vous demande de payer, mais ce sont des outils tellement utiles et pratiques. Il y a plusieurs.
Ce sont des bloqueurs de pub et franchement, je vois pas comment on peut vivre sans. À chaque fois que je me retrouve sur un ordinateur où il n'y a pas de bloqueur de pub, je pleure toutes les larmes de mon corps. C'est une infection. Voilà, donc ça vire pas 100% des pubs, mais une grosse, grosse partie. Et le monde est beaucoup plus beau sans les publicités sur Internet.
Oui, mais as-tu pensé aux publicitaires qui vont perdre leur boulot et leur gagne-pain ? C'est vache ce que
alors,
tu fais là, vraiment.
Je te dirais que je m'en fous un peu.
Oui, mais pour le coup,
qu'on puisse dire que les sites qui vivent de la publicité vont avoir plus de mal.
T'as pas à t'en foutre, puisque eux, ils ont attaqué en justice. Alors parce que
ils ont été attaqués en justice.
Ils ont attaqué, non, je parle des publicitaires.
Ah oui,
les publicitaires ont attaqué en justice, ou d'autres personnes qui sont dans les mêmes domaines. Ils ont attaqué l'éditeur officiel, parce qu'il y a un éditeur, il y a une société qui est derrière Adblock Plus, et ils ont dit non, faut interdire ça en Allemagne, parce que tout ça, ça bouffe notre revenu.
Oui, mais ils sont attaqués à Adblock Plus, parce que Adblock Plus a une particularité, c'est qu'ils ont dit, oui, la publicité est nécessaire à certains sites pour vivre, donc c'est pas entièrement mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre Adblock, notre logiciel, on va mettre une liste blanche, c'est-à-dire une liste où certains sites auront le droit de faire de la publicité, à condition qu'ils respectent certaines normes, c'est-à-dire pas le machin qui pète à la gueule, qui
empêche
la lecture. Et le fait est que rentrer sur cette liste impose de respecter les normes et de payer AdBlock Plus l'entreprise.
C'est bizarre.
Et donc là, ils ont dit que ça ressemble un petit peu à du racket quand même. Mais la justice a donné raison à AdBlock Plus.
Alors nous, on apprécie, c'est du logiciel libre. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit
moyen.
Avec ça. T'apprécies moyen le fait qu'il y ait une liste blanche ?
Non, mais c'est que tu devrais... Qu'il y ait une liste blanche, pourquoi pas, mais c'est à l'utilisateur qui devrait choisir ce qu'il y a dedans. Alors je crois qu'il peut l'éditer, mais elle est éditée par défaut, donc on sait bien que la plupart des gens vont pas aller mettre le nez dedans.
Certes, certes.
Donc voilà, moi je rêve d'un bloqueur de pub qui en fait chargerait les pubs sans les afficher sur l'écran, parce qu'en fait maintenant il y a plus en plus...
Clics, hein.
Voilà, il y a de plus en plus de
salaud
sites... Que
tu es.
Qui empêche l'accès quand on bloque la pub. Après, je peux comprendre, voilà. Mais du coup, si on faisait ça, les systèmes de pub penseraient que les pubs ont été affichées et ces sites continueraient à toucher de l'argent. Bon, ça nous coûterait un petit peu de bande passante, mais pas la nuisance et ce serait un bon moyen de faire sauter le système pub.
Je vous rappelle, hein, ceux qui ont la Freebox, il y a un petit paramétrage pas forcément très visible. On peut bloquer la pub sur tout son réseau en interne, beaucoup de pubs en tout cas. Ça fait toujours plaisir.
ZDNet France, alerte enlèvement, Mandrive a disparu, un article de Louis Adam.
Faudrait faire le bruit de l'alerte enlèvement, mais bon, c'est pas nouveau non plus. Mandrive, société qui éditait une distribution, la distribution française par excellence. Ils avaient fait parler d'eux. Ils avaient notamment été ceux qui avaient installé les ordinateurs des députés français. Pas mal de choses intéressantes, mais ça fait longtemps qu'ils ne fonctionnaient plus.
Voilà, ils avaient pris une option qui était de faire du B2B, comme on dit, c'est-à-dire du travail pour les entreprises. En gros, essayer de faire du service pour les entreprises et manifestement, ils sont en train de couler. Mais
ils ont coulé.
Voilà, mais la distribution était reprise par des bénévoles, donc elle existe toujours sous la forme de Mageia ou Mageia, je sais jamais ce qu'il faut dire, et Mandriva.
Le logiciel libre se poursuit, il y a pas de risque là-dessus, rien n'est mort à ce niveau-là.
L'avenir, Windows, macOS, Android, des logiciels malveillants, tranche le pape du logiciel libre, un article de Georges Lequeux.
On n'aura jamais le temps d'en parler en profondeur, parce que c'est intéressant, je pense qu'il faudra faire une émission de radio sur le sujet. Richard Stallman, il y a des logiciels qu'il n'aime pas, des logiciels privateurs pour l'essentiel.
Oui, et donc il les compare à des malwares. Le principe, normalement, un malware, c'est un logiciel qui s'installe sur un ordinateur pour balancer de la pub ou des choses comme ça. Hein, quand on a des pop-up qui s'ouvrent sur son ordinateur et qui dit achetez ceci, achetez cela, c'est un malware. Et donc lui dit les logiciels comme Microsoft Windows, macOS
et Android,
et
ça
Android
un peu mal au cœur.
Sont des malwares puisqu'en fait ils sont là pour forcer l'achat dans telle ou telle direction, espionner l'utilisation de l'informatique pour traquer les gens et leur balancer encore plus de cibles, encore plus ciblées, etc.
Contrôler ton usage des contenus que tu as téléchargés. Les DRM font partie aussi de cet esprit-là.
Avec cette possibilité d'effacer. Il parle également de Netflix qui espionne abondamment pour savoir ce que l'utilisateur regarde, etc. Et donc, tout ça, c'est des fonctionnalités de malware et ces logiciels sont des malwares.
Allez jeter un œil, hein, c'est un site qu'on ne connaissait pas encore, l'avenir.net, qui reprend le sujet. D'autres sites l'ont repris, mais de manière terriblement mauvaise. C'est assez amusant quand j'ai lu ces articles, mais bon, ça arrive.
Next Impact, le fisc rechigne à révéler le code source de ces logiciels, un article de Marc Ress.
Alors, l'ACADA, les logiciels produits par les administrations françaises.
On en parle quasiment toutes les semaines.
Voilà, donc c'est parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On est cité parce qu'on est l'April et sur le sujet de manière assez forte. Et malheureusement, il semble que le fisc n'est pas obligé de diffuser. Alors,
oui, on
va pas comprendre
dit, les avis de l'ACADA ne sont pas contraignants.
Voilà, donc il y a des logiciels faits par le fisc pour calculer ses impôts, par exemple. Ils ne sont pas obligés de diffuser ces logiciels, alors que pourtant, ce serait bien utile pour tout le monde, peut-être même pour les administrations, il n'y a pas de risque. Il y a des attentes.
Oui, et en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a des avis plutôt positifs. La CADA est d'accord, mais on n'est pas obligé. Le patron de la DGFiP est d'accord, mais ils ne le font pas. Du coup, Monsieur X, c'est-à-dire la personne qui a fait cette demande, qui préfère rester anonyme, dit « c'est juste ridicule, je veux avoir ce truc-là ». On rappelle que ce truc sur le calcul des impôts, c'est une question importante.
Et super compliqué, donc voilà. Qu'il y a vraiment qu'on aurait utilité d'avoir un algorithme visible.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le ministère des Finances dit qu'une de leurs craintes, c'est que toutes les boîtes qui font de l'optimisation fiscale se servent de ça pour être encore plus efficaces.
Ils ont peur qu'on les tienne responsables s'il y a des bugs, des erreurs, et donc ils ont peur de cette fameuse garantie, quoi.
Tout à fait. Et puis l'autre chose qui met un grand coup de pied dans le système, c'est que la loi, par principe, peut être interprétée de plusieurs façons, et c'est le rôle du tribunal de trancher au cas par cas. Or, dès lors qu'on a codé, en informatique, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça veut dire que c'est une interprétation de la loi, loi et qui devrait faire autorité en bonne logique puisque c'est celle du ministère.
Un algorithme, ce serait propre pour une fois.
Et oui. Mais du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on se dit que ça pourrait complètement révolutionner le droit, en tout cas certaines parties du droit. En
ça nous fait peur, hein, par ailleurs. Hein.
Ouais.
Il y a d'autres points sur lesquels les algorithmes nous inquiètent énormément. Mmh. Les boîtes noires, hein, bon, on en reparlera là aussi. Mais les algorithmes, d'une manière générale, ça peut nous inquiéter parce que ça peut contrôler nos vies, contrôler la durée de temps où les gens vont en prison, contrôler tellement de choses sur les façons de payer les assurances, nos emplois. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est inquiétant.
Bah, je pense qu'on en a déjà, hein, notamment quand on va faire une demande de prêt à la banque.
Carrément.
C'est comme ça que ça marche.
Donc là, au moins, ce serait visible, et ça, c'est ce qu'on demande, que ce soit fait en libre, diffusé à tous, qu'on puisse le reprendre, l'étudier, les libertés, quoi.
Très bien. Eh bien, on a fait le tour. Merci Manu.
À la semaine prochaine.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vinault.